Loué, exalté soit le Seigneur et remercié soit le Seigneur. Nous pouvons de nouveau être ici pour adorer, pour lui dire merci pour ce qu'il a fait en nous. Je crois que cela peut être estimé seulement par celui qui a expérimenté le Seigneur, qui a expérimenté Dieu. Il sait ce que cela signifie d'être sauvé, d'avoir reçu la grâce de Dieu, d'avoir reçu le pardon de ses péchés et d'avoir reçu la vie éternelle, qui a la certitude, qui porte cette certitude dans son cœur. Je suis un enfant de Dieu, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu, je suis un enfant de Dieu. Et son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si c'est ainsi, alors nous sommes passés de la mort à la vie. La mort terrestre est qu'un changement, un passage du temps à l'éternité, est de sortir de cette enveloppe mortelle et d'entrer dans le corps qui est déjà préparé pour nous. Mais bien aimé, tout ce que Dieu, dans sa parole, nous dit, ce sont des réalités. Avec Dieu, nous avons justement qu'à faire qu'à des réalités. Ce que les hommes disent, ils changent de manière leur opinion selon les circonstances. Mais Dieu, lui, ne change pas sa parole. Jamais. Dieu ne change jamais ses intentions. Son plan, jamais. Ses desseins, tout ce qu'il s'est proposé de faire, il l'accomplit. Je dois aujourd'hui dire quelque chose de personnel ici. Cela m'a touché beaucoup. Un frère m'a fait un plaisir. Et il était touché et maintenant moi aussi je suis touché. C'était un très cher frère qui, au réunion de la fin de l'année, était venu. Et peut-être que c'était pour la première fois, je crois, avec toute sa famille, oui. Et il avait de l'asthme accentué, était très malade. Et il est venu à la prière. Et Dieu l'a guéri. Et alors, il a demandé, ici au bureau, qu'on puisse lui envoyer une photo du frère Branham. Et j'ai plusieurs photos qui ne sont pas connues. Et nous ne savions pas exactement quelle aurait été sa réaction. Et je vais vous dire ce qui s'est passé après que nous lui ayons envoyé une petite photo. Je m'excuse si un peu ici, comme à la maison je le fais, mais je dois aussi être comme je suis. Ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun sens de ne pas être comme on est. On doit rester comme on est. Et je suis touché. Et ça, je veux partager ma joie avec vous. Peut-être que cela, un peu, va vous apporter de la joie. Je vais vous montrer. Oui. Cela a été fait en quelques jours, on peut presque le dire. Cela a été fait. Et la photo est arrivée hier. Ça a été dessiné et c'est arrivé hier. Le frère Novak m'avait montré une photo d'Israël, comment est-ce que les frontières étaient du pays, et cette photo est venue hier. Et vous pouvez vous imaginer, ça c'est une demi-fortune. Et le frère a été guéri, et il a fait une fête de famille pour remercier le Seigneur. Donc, ce pour qui, à cause de son asthme, il était un fardeau auparavant, était désagréable donc pour les autres, cet asthme. Donc, il a voulu, maintenant qu'il peut être agréable aux autres, vous savez, quand on a toujours la toux, comment c'est très agréable aussi pour les autres, ou bien vous n'avez jamais eu cela. Il y en a qui n'ont jamais eu qui n'ont jamais rien eu. Et ils ne peuvent pas ressentir avec les autres. Mais si quelqu'un avait déjà quelque chose, il peut, n'est-ce pas, ressentir avec les autres. Et comme déjà dit, je me suis très réjoui. Alors que, n'est-ce pas, cette surprise est venue hier soir. Que Dieu puisse bénir notre frère et toute sa famille richement. Nous n'allons jamais faire un culte, ça vous le savez très exactement, mais de la même manière aussi, nous n'allons jamais non plus renier que Dieu a envoyé un prophète dans cette génération et que c'est par lui qu'il nous a parlé et a parlé avec beaucoup d'autres. Si Paul, aujourd'hui, tenait une réunion quelque part, vous pouvez me croire. Moi, j'irai là-bas pour l'écouter. Peut-être que vous aussi, vous irez. Ou bien alors, vous resteriez quelque part assis. Non, chacun qui vraiment a compris ce que Dieu, par de tels serviteurs, a fait, il donnera tout pour pouvoir écouter ce messager de Dieu. Ça, c'est pas rendre un culte à un homme. Je sais exactement. Il y a toujours eu des gens, et dans les années 60 encore, quand Hermann Seitz, ce prédicateur allemand, ancien en Allemagne, prêchait, beaucoup sont allés l'écouter parce qu'ils se sont attendus à ce que Dieu bénisse. Et vraiment, il y en a d'autres aussi qui ont prêché et les gens sont allés les écouter. Aujourd'hui, nous, les gens regardent bien sûr à d'autres qui de nouveau entreprendre des voyages, ils les regardent en les méprisant, ils disent, ils pensent en eux-mêmes, mais ils ne sont pas tout à fait normaux d'entreprendre tant de kilomètres, mais qu'eux-mêmes ils soient allés, ils aient entrepris tant de kilomètres pour prendre part à quelque chose qui n'avait même pas la valeur, hein, que nous avons en allant écouter la parole de Dieu. Ils sont assis là et pensent en eux-mêmes, bon, oui, ils peuvent vraiment... Ils sont malheureux pour moi, n'est-ce pas, hein? Et eux, ils font des choses qui n'ont aucune valeur. Et nous demanderons aussi pourquoi ils le font. Mais ceux qui savent pourquoi ils entreprennent de tels voyages, ils ne posent plus la question. Ils vont tranquillement, ils écoutent la parole de Dieu et ils sont bénis. Et c'est ainsi que cela peut se passer, qu'il y en a qui ont fait la même chose et ensuite jugent d'autres quand ils font quelque chose et qu'en fait, eux-mêmes, ils font la même chose. Vous savez, le chemin de notre Dieu, lui, continue toujours malgré tout. Et nous allons pas, il ne va pas rester arrêté à un point avec son peuple. Non, il continuera à marcher jusqu'à ce que nous soyons tous passés de la foi à la vue. Nous continuons avec la parole que nous avons déjà observée ici mercredi. Hier, nous avons rapidement touché ce point. Il s'agit de l'Église du Seigneur. Ici, dans Galates 3, seulement cette pensée, le verset 13. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Nous savons que la loi en tant que telle était nécessaire pour nous convaincre de la transgression. Il n'y a pas de possibilité d'être convaincu d'une transgression si ce n'est que ce soit par la loi. Et c'est peut-être raison que la connaissance du péché vient par la loi. Christ n'a pas jeté la loi dans un four pour la brûler. Mais il est devenu malédiction. Il a porté la malédiction que la loi avait annoncée pour la transgression de l'humanité. Il a porté cette malédiction. Est-ce que vous comprenez cela? Je ne sais pas. Nous devons un jour prendre du temps comme dans un séminaire biblique, car c'est justement de ça qu'il s'agit. Que pensez-vous? Ce que Paul a prêché quand, pendant jusqu'à minuit, il a lu des prophètes de Moïse et etc. dans les Écritures. Et de quoi est-ce qu'il a parlé? Comment, de manière profonde, il est entré dans ces mystères divins de la parole de Dieu? Toujours, il s'agissait de bien dispenser la parole de Dieu. En quoi est-ce que quelque chose était nécessaire? Quel objectif cela avait à remplir? Comment est-ce que les choses ont à être placées dans la parole? C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que Dieu nous a accordé la grâce et nous a donné une vue d'ensemble sur ce qu'il avait comme intention. Revenons comme dessein. Revenons à cette parole qui nous touche à tous le cœur en ce qui concerne l'Église du Seigneur. Jésus-Christ est le chef de l'Église. la tête de l'Église. Et partout là où il peut bâtir une Église et où il peut établir les ministères, où la place qui lui est due lui est donnée, c'est là qu'il veut se révéler, car c'est là que son peuple est rassemblé en son nom, pas seulement pour être béni, mais pour remplir un objectif. Vous savez, nous ne sommes pas seulement là pour être bénis, mais pour être une bénédiction pour les autres, comme Dieu avait parlé à Abraham dans Genèse 12. Je te bénirai et tu seras une bénédiction pour les autres. Donc, toute personne qui jusqu'à aujourd'hui a été vraiment bénie par Dieu a été aussi une bénédiction pour les autres. Vous pouvez dire amen à cela. Vous pouvez dire amen sans inquiétude. Votre amen me manque. Je le répète. Chaque personne, chacun qui jusqu'à aujourd'hui a été vraiment béni par Dieu, est béni par Dieu, il a été une bénédiction pour les autres aussi. C'est pas possible autrement. C'est ainsi. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit. Genèse 12. Et si nous ne sommes pas une bénédiction pour les autres, alors qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Alors quoi? Mais bien aimé, nous ne pouvons plus comme ça prendre les choses à la légère et penser de nous en sortir. Dieu nous bloque dans un coin, comme je l'ai dit hier soir. Et il n'y a pas une possibilité d'en sortir, ni à droite, ni à gauche. Nous allons devoir clairement regarder chaque écriture en face. Et personne n'a besoin a le droit maintenant de se détourner de la chose, des vérités, ou bien d'essayer de prendre un angle et d'en sortir, de penser à s'en sortir. Mais ouvertement, nous voulons nous placer en face de chaque écriture de la parole de Dieu et savoir que Dieu, lui, il veut produire ces choses en nous. C'est pour cette raison qu'il nous parle personnellement à chacun de nous, comme cela est possible. Plus à droite et à gauche, comme ça qu'on pense, nous laisser penser que cela concerne les autres. Mais c'est à nous, nous devons savoir que nous sommes concernés. Et c'est à nous que Dieu veut parler pour que nous puissions reconnaître notre état spirituel et ensuite venir à lui et recevoir de lui la plénitude. Car si nous n'avons pas encore quelque chose, ça ne veut pas dire que nous allons que nous ne pouvons pas le recevoir. Mais justement, c'est justement quand nous constatons que nous avons que quelque chose nous manque, c'est à ce moment-là que nous pouvons le recevoir. Mais si nous disons, oh, nous sommes riches, je suis riche, je n'ai besoin de rien, comme la Odyssée, et tout va bien, alors Dieu pourrait nous accorder. Mais si nous venons et nous sommes conscients que nous sommes pauvres d'esprit, et nous disons, Seigneur, je veux encore voir clairement, encore plus clair. Je te remercie déjà de ce que tu as ouvert mes yeux. Mais maintenant, j'aimerais que tu puisses les oindre mes yeux, pour que je puisse comprendre la parole, révéler la parole oindre, que je puisse mieux la comprendre comme toi tu veux que je comprenne. Vous savez, il y a un aller de l'avant dans notre vie spirituelle. Il y a une croissance. Nous ne restons pas quelque part, nous ne stagnons pas quelque part, et nous ne sommes pas dans la foi de rester des enfants toute notre vie. Mais nous devenons adultes. Nous grandissons à la stature parfaite de Christ. Dans la statue, nous grandissons, nous passons de connaissance en connaissance et d'une expérience à une autre, d'une clarté à une autre clarté et d'expérience à expérience. Et ça, c'est le chemin que Dieu nous conduit. Et je pense que plus nous nous rapprochons de la fin, et plus puissamment, plus clairement, plus dans toutes leurs circonférences, Dieu veut nous révéler les choses jusqu'à ce que nous entrons dans toute la plénitude qui a été préparée pour nous. Et je crois que quelqu'un l'a déjà mentionné dans la prière hier soir ou bien mercredi soir, je ne sais plus exactement. Mais alors que Salomon, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, avait consacré le temple, la gloire de Dieu est descendue et a rempli le temple. Sans la gloire de Dieu, sans que Dieu ait établi sa demeure parmi son peuple, par ce temple, tout le bâtiment aurait été un bâtiment en pierre et c'est tout. Une maison comme toutes les autres maisons. Comme aussi souvent je l'ai dit de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, sans le témoignage de Dieu en elle, était qu'une boîte. Mais avec la parole de Dieu en elle, avec le témoignage, c'était une arche de l'Alliance. Et partout où elle a été portée, il y avait la bénédiction. Même à Édom, dans la maison de cette personne-là, où l'arche de l'Alliance a été laissée, un homme incrédule, en fait, incroyant. Mais quand l'arche de l'Alliance a été placée chez lui, il y a eu la bénédiction dans toute sa maison et dans tout son environnement, son voisinage. Vous voyez, mes frères et sœurs, ce sont des exemples qui ont beaucoup de choses à nous dire. Sans Dieu, sans le témoignage de Dieu, nous sommes rien du tout et nous sommes comme les autres hommes parce que nous avons les mêmes rues que nous utilisons, les mêmes trottoirs, le même travail, nous allons sur la même rue, tout la même chose, des voitures comme les autres. Mais la différence dans notre vie n'est pas dans notre vêtement, dans la voiture que nous utilisons ou bien à l'extérieur, mais ce qui est important, c'est ce que Dieu, dans ta vie et dans ma vie, a fait. Et maintenant, à la fin, il veut, n'est-ce pas, faire la chose la plus grande et la plus glorieuse et merveilleuse. Nous avons, n'est-ce pas, les promesses les plus merveilleuses pour les derniers jours que nous avons reçues, dans lesquelles tout, n'est-ce pas, doit arriver à la perfection et est achevé. J'aimerais lire dans 1 Corinthiens chapitre 1 et puis finir avec le chapitre 2, puis car le chapitre 3 on l'avait déjà vu hier. 1 Corinthiens 1 verset 1. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons que Paul, les deux révélations de Dieu, en tant que Père et en tant que Fils, comme Père et comme Fils, toujours clairement a mis l'insistance, a mis l'importance là-dessus. Et ça, nous le faisons en cet endroit, donc par pleine conviction. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ça, nous insistons, nous le prêchons de tout notre cœur. Avec la seule différence que nous ne croyons pas comme l'Église catholique romaine l'enseigne, que d'éternité déjà, en tant que Dieu, il existait à côté de Dieu. Mais que Dieu, en Christ, est devenu homme et s'est révélé et que la parole est devenue chair. C'est ça la différence. Je peux de l'histoire de l'Église vous prouver que jusqu'au concile de Nicée, cela a été prêché ainsi. Et ensuite, il y a un commentateur qui écrit que depuis ce temps, on n'a plus annoncé Dieu dans trois révélations, mais on a annoncé que trois sont un. Mais c'est une grande différence. Si un de trois manières se révèle, ou alors est-ce que trois sont un, qui sont en accord en avant? Non, notre Dieu est un seul Dieu, constitué d'une seule personne. Et il n'y en a pas un autre endroit de lui. Et de la même manière, comme si on prendrait une table, qu'on la renverserait. Elle a toujours les quatre pieds, mais ce n'est plus une table. C'est une plaque avec quatre pieds en l'air. On doit voir les choses telles qu'elles sont et pas appeler quelque chose qui ne l'est plus. Hein? Il ne s'agit pas ici de jouer d'un jeu de mots. Il ne s'agit pas d'un jeu de mots. Il s'agit de la révélation divine. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est qu'un seul, constitué d'une seule personne, c'est ce que ça veut dire. Et en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. C'est ce que Dieu a dit. Je suis Dieu. Et en dehors de moi, il n'y en a pas. En dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Vous pouvez le lire dans le prophète Ésaïe 44, le verset 6 vous-même. Vous pouvez le lire à partir du verset 6, vous pouvez commencer si vous le voulez. Ésaïe 44 et dans beaucoup d'autres écritures. Ceci est le temps de la révélation de Dieu, de la révélation de Dieu sur sa parole. Et écoutez ce que je vais vous dire. Chacun à qui Dieu peut se révéler, aussi les mystères de Dieu lui seront révélés. Si les mystères de Dieu, si la révélation de Dieu en Christ reste cachée pour toi, aussi les mystères de Dieu en Christ Jésus, qui ont été révélés en Christ Jésus, resteront cachés pour toi. Tout est lié à la révélation centrale de Dieu en Christ, c'est-à-dire en Jésus-Christ notre Seigneur. Et puisque les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, ne peuvent pas croire en lui, et il y a plusieurs choses qui pourraient être différentes, mais Dieu a conduit les choses ainsi, et c'est comme ça aussi dans son plan. Au ciel, il se révèle malgré tout. Malgré tout. Il y en a qui disent, oui, mais si dans la Bible, tous les noms hébreux étaient restés, alors nous saurions comment est-ce que c'est. Il y a un verset biblique duquel il est écrit, et vous n'avez pas le droit de prononcer le nom du Seigneur. Cette écriture, les Juifs l'ont prise, et le nom original, Yahshua et Yahvé, ils n'ont plus voulu le prononcer parce que ils voulaient obéir au commandement de Dieu de ne pas prononcer le nom du Seigneur. Mais bien aimé, ça, ce sont des choses qui ont été mal comprises. Ce sont des incompréhensions dans le moment du temps. Mais ça, cela a une signification dans l'histoire du salut, dans l'histoire de l'Église, pardon, mais pas pour nous ce soir. Mais ici, Paul s'adresse à l'Église de Dieu en Corinthe. L'Église de Dieu, verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Et vous savez que c'est que l'Église de Dieu, même si elle est en Corinthe, je vais vous lire ça dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, en relation avec 1 Corinthiens 1, verset 2. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'Église de Dieu n'a pas seulement des vérités en elle. La vérité est en elle. Oui, elle est porteuse. Elle est la colonne. Elle est l'appui. Elle est la matière des vérités divines. Elle en est une partie. Et nous devons comprendre cela. Elle n'est pas comme ça une place de tumulte pour toutes sortes d'interprétations et d'enseignements humains, ou bien d'explications, ou bien de pensées humaines. Elle est la colonne et l'appui de la vérité. Et la vérité est indivisible. Elle est la parole de Dieu. Et comme frère Branham, maintenant dans une prédication, le dit, elle va bientôt être éditée. Là, il mentionne, il dit que seulement la parole de Dieu est la vérité. Et seulement celui qui redonne la parole de Dieu telle qu'elle est écrite, c'est ainsi qu'il dit la vérité. Seulement, si il redonne cela pas dans le contexte tel que c'est écrit, alors ce n'est plus la vérité, ce qu'il dit, même en lisant les versets. Vous pouvez lire vous-même cette brochure. Comment se conduire dans la maison de Dieu? Beaucoup, la plupart ne savent pas justement comment se conduire dans la maison de Dieu. Laissez-nous comprendre que nous sommes l'Église du Dieu vivant, que nous voulons devenir l'Église du Dieu vivant. Je fais exprès de formuler ça comme ça. Et pour ne pas donner l'impression comme si nous avons déjà tout et que nous sommes déjà tout. Mais nous sommes en chemin vers cette condition. Et nous demandons à Dieu sincèrement que nous aussi, nous soyons, nous puissions être adressés en tant que son Église et que nous puissions aussi nous conduire en tant que comme étant son Église. C'est-à-dire en tant que la colonne et l'appui de la vérité. Comme il est dit ici, mais si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. Si tous les croyants qui veulent appartenir à l'Église de Dieu avaient vraiment ce désir sincère profond en eux et disent, « Oh mon Dieu, je suis qu'un homme. Je ne sais pas ce que je dois faire. Rends-moi capable. Accorde-moi de la sagesse. Je veux être un membre, une partie du corps de Christ, une partie du corps. Je veux appartenir à ton Église. Accorde-moi la sagesse et la grâce. Rends-moi capable que je puisse savoir comment est-ce que j'ai à me conduire et quels sont mes devoirs. Et vous allez voir que si ainsi nous venons dans la prière devant la face de Dieu, avec ce souhait sincère de notre cœur d'être l'Église de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité, une tente d'assignation, une maison du Dieu vivant, alors le Seigneur va répondre à notre prière. Et nous serons baptisés dans un seul corps, être baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, tous, par un seul esprit. Nous allons être baptisés dans un seul corps. En allemand, c'est comme ça. Tout le reste, ce sont que des communautés, des congrégations, mais ce ne sont pas l'Église du Dieu vivant. L'Église du Dieu vivant, s'il vous plaît, est seulement là où les différents membres ne sont pas seulement nés de nouveau, réellement, mais par le baptême du Saint-Esprit, ils ont été placés dans ce corps divin, ils ont pu être placés, joints, qui ensuite, par Dieu, sont remplis et utilisés par cette dynamique de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'Église du Dieu vivant. Du Dieu vivant, pas seulement colonne et appui de la vérité, pas seulement, ça aussi. Ça en première chose et en dernière chose. Mais aussi pouvoir être utilisé par Dieu pour le ministère qu'il a donné. Et pour cela, il faut être baptisé dans le corps, dans un même esprit. Et ici, Paul dit dans 1 Corinthiens 1, verset 2, à l'Église de Dieu qui est en Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Jean 17, verset 17. Je me sanctifie pour eux, pour que eux aussi, ils soient sanctifiés dans la vérité. 1 Corinthiens 1, verset 2. La sanctification divine a lieu dans la vérité, pas sans la vérité. Et l'esprit de la vérité produit cette sanctification divine en ceux qui sont nés de nouveau de la vérité. Nous sommes de la vérité, nous sommes dans la vérité, comme hier soir nous l'avons déjà observé. Dieu a rétabli la relation du ciel sur cette terre, avec cette terre. Il est venu à nous, en venant à nous, il est devenu homme en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu n'est jamais né. Dieu n'est jamais mort. Mais Jésus-Christ est né. Jésus-Christ mourut et est ressuscité. Mais quoique Jésus, à 100% dans le corps, était homme, et trouvé comme un nouveau-né, dans une enveloppe de la paille. Mais la chose divine qui était invisible, a englouti le terrestre, comme j'aimerais le dire, de ces certains pères de l'Église qui l'ont formulé ainsi. Et je vous pose la question. Si Jésus-Christ est Dieu et homme, a été Dieu et homme en un seul, alors la réponse est très facile, que la chose divine a dominé le terrestre et a été vainqueur. Et ça était ainsi comme ça exactement. Il mourut en tant qu'homme pour l'humanité. Comme homme pour l'humanité. Et son saint sang, qui était le sang de Dieu, il a versé le sang divin. Pour justement appeler à l'existence une église qui est la race de Dieu. Ainsi, pour devenir enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. La race de Dieu. Ici, il est même dit aux saints par vocation. Les saints qui ont été appelés par Dieu ici sont adressés dans cette parole et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur. Il relit le verset 2 de 1 Corinthiens 1. Que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ en tout lieu. Ici, nous sommes inclus. En quelque lieu que ce soit, nous sommes inclus. Donc, cette parole n'est pas seulement adressée à l'Église en Corinthe, aux Corinthes, écrit, mais à eux, mais adressée à tous ceux qui ont été appelés à sortir, à tous ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, à tous ceux qui sont saints par vocation, en quelque lieu que ce soit. Donc aussi, ici, avec nous, chez nous. Cette parole nous s'adresse à nous tous, à chacun, très directement, personnellement. Ensuite, il est dit, verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la malédiction de la loi, c'est ce qu'il a porté. Ayant anéanti par sa chair, la loi des ordonnances dans ses prescriptions et ôté le mur de la séparation, et il a apporté la paix. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Tous ceux qui sont dans cette réconciliation-là, divine, ils sont entrés. Et nous croyons que nous sommes tous entrés dans cette réconciliation-là. Nous avons été introduits dans cette terre de réconciliation. Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Nous sommes crucifiés avec lui, morts avec lui, ensevelis avec lui. C'est-à-dire écrit, oui ou non? Oui ou non? Et nous sommes aussi ressuscités avec lui, oui. Et nous sommes déjà assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, ce sont des réalités divines. Vous diriez peut-être, oui, mais nous sommes encore ici sur cette terre. Mais comment est-ce que nous pouvons déjà être assis dans les lieux célestes? Peut-être que cela vous aide si une fois vous allez dans Jean, l'Évangile, au chapitre 3, et que vous lisez ce que notre Seigneur ici a dit. Et alors, nous allons un peu mieux comprendre. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il était assis là, il était devant lui, sur cette terre, avec ses deux pieds. Il a parlé avec cet homme, avec ces hommes, et il dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est quelque chose de merveilleux. Dieu n'est pas lié à des temps ou bien à des bâtiments ou bien des... Dieu était au ciel, Dieu était en Christ. Dieu est maintenant au ciel. Et Dieu habite dans ton cœur et dans mon cœur. Est-ce que c'est vrai? C'est ainsi. Qui veut lier Dieu à un endroit et dit maintenant tu es là et tu ne peux pas être quelque part d'autre en même temps? Non, notre Dieu est omniscient. Il est tout puissant. Et il est omnipotent. Nous devons abandonner nos pensées humaines et briser la lumière du son et fouler le sol de la révélation, et cela dans la foi en Jésus-Christ, en qui Dieu sur terre s'est révélé. Car c'est dans lui que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu sont cachés. C'est ainsi que Paul l'écrit aux Colossiens. S'ils sont cachés en lui, alors ils peuvent que être révélés par lui. Et c'est là que nous comprenons déjà ce que cela signifie quand il est écrit la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné à sa Jean, celui de Patmos, pour montrer à tous ses serviteurs ce qui va se passer bientôt. Par cela, qu'il a laissé savoir à son serviteur, ainsi, ils ont pu aussi nous laisser connaître à nous. Et j'aimerais, c'est cette pensée qui sûrement va nous toucher à tous, car il est écrit ici, je lis le verset 4, 5 et... Je ne vais pas lire le verset 4, 5 et 6, je lis à partir du verset 7, 1 Corinthiens 2, verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, cette parole, le verset 7, semble aussi être écrite pour la fin, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce contexte des choses, il est dit, il vous affermira de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans ce contexte, cela veut dire que Dieu a restauré tout. Au temps où les croyants seront dans l'attente de la manifestation de notre Seigneur Christ, ils ne manqueront d'aucun don, parce que Dieu a dit qu'il restaurera, il rétablira toutes choses. Il te rétablira les jours. Et avons-nous pas considéré que les paroles de Dieu et les actions de Dieu sont toujours en accord, en harmonie? Les paroles de Dieu, ce que Dieu dit et ce que Dieu fait, doit toujours être en accord. Et nous sommes reconnaissants pour cela et heureux. Vous pouvez lire la Bible. Tout ce que Dieu a dit, il l'a toujours fait. La parole de Dieu avec l'action de Dieu sont toujours en accord. Si des promesses existent pour l'Église que Dieu a données, alors il ne peut rien faire d'autre que de veiller sur sa parole pour l'accomplir. Croyons simplement de tout notre cœur que Dieu, ce n'est pas en vain qu'il s'est donné tous ses efforts. Il a restauré sa parole, tout ce qui était perdu en révélation divine, en mystère. Il a tout révélé. Maintenant, il veut restaurer et manifester sa puissance à ceux à qui il a révélé sa parole. Et à cela, j'aimerais aussi lire une parole concernant cela. Vous pourrez en fait lire aussi le verset 8, le verset 9. Ce sont des versets merveilleux. Peut-être que nous le faisons tout de suite, rapidement, au verset 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Est-ce que vous remarquez? Jusqu'à la fin. Il vous affermira jusqu'à la fin. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Afin que vous soyez irréprochables. Alléluia. Irréprochables. Au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne manquerez de rien que Dieu ait promis. Les ministères, les dons, la parole, la puissance de Dieu, l'esprit, le sang, les fruits, tout est en action et agit dans l'Église du Dieu vivant. Et jusqu'à la fin, il vous affermira. Il nous accordera d'être fermés. Nous avons besoin d'être affermis. Parce que les épreuves seront beaucoup plus grandes qu'elles l'ont été jusqu'à maintenant. Ça, c'est vrai. Les épreuves étaient toujours selon la parole que Dieu avait donnée et avait révélée. Dans ces jours, il a révélé tout dans toute la largeur, profondeur, hauteur. Et nous pouvons dire avec Paul, oh quelle profondeur de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Comme c'est insaisissable, comme ses chemins sont insondables et ses jugements. En relation avec cela, nous pouvons nous attendre à ce que les attaques aussi de l'adversaire soient massives, soient fortes au-dessus de toute mesure, n'est-ce pas? À cause de ce que Dieu nous a accordé. Il faut toujours faire la balance. Et on ne peut pas changer les choses. Et Dieu a conduit les choses. Plus Dieu bénit et plus l'adversaire se met en colère. J'aimerais encore relire cela. Dieu est fidèle, verset 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Par qui vous avez été appelé à la communion de son Fils. Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est fidèle. Et cela reste ainsi. Voilà dans le contexte, il est fidèle. Il est fidèle et véritable. C'est ainsi que c'est écrit dans Apocalypse chapitre 15. Fidèle et véritable. Il est fidèle à sa parole et obligé d'accomplir ce qu'il a dit. Ces versets ici, nous pouvons encore tous les lire dans le recueillement. Je voudrais encore rapidement lire le verset 17. Je voudrais rapidement lire le verset 17 et ensuite le verset 18. Et peut-être aussi 2-3 versets. Dans 1 Corinthiens 1, maintenant le verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Et ici aussi, nous restons un moment. Il y en a qui réellement ont écrit que Paul, n'est-ce pas, n'a même pas baptisé, pas du tout. Et il n'a même pas trouvé nécessaire de se laisser baptiser. Et ça, ce n'est pas vrai. Paul a su. Mais Paul a su que d'autres sont là qui peuvent baptiser. Lui, il a eu son devoir principal. Il a vu son devoir principal en ce qu'il faut annoncer l'Évangile. L'Évangile de Jésus-Christ et de l'annoncer tel qu'il a reçu par révélation divine. Et il dit ici, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Mais bien-aimés, nous avons besoin d'une expérience personnelle avec Dieu, par laquelle et dans laquelle la parole de la croix et le crucifié et ce qui a eu lieu pour nous à Golgotha dans notre vie produisent son effet. Sinon, nous pouvons prêcher sur Christ, chanter sur lui et même se disputer. Beaucoup aussi le font. Et cela ne sert à rien, à personne. Paul, ici, exprime qu'il a été envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc, la croix de Christ est pleine. Elle n'est pas vaine. Elle n'est pas rendue vaine. Si elle ne doit pas être rendue vaine. Donc, elle est pleine d'effets. Il y a quelque chose dans la croix. Dans l'annonce de l'Évangile, il y a une puissance, il y a quelque chose. Ce n'est pas rendu vain. Ce n'est pas sans effet. Est-ce que vous comprenez? Et ici, au verset 18, vous allez comprendre pourquoi. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Par la sagesse du langage, par la sagesse humaine, la puissance de Dieu ne peut pas être manifestée et produire son effet et accorder l'expérience à la personne. Nous devons prêcher, annoncer Jésus-Christ crucifié d'une manière que la pleine puissance de Dieu, telle qu'en Christ le crucifié, elle a été manifestée. Il faut que la même puissance se manifeste en ceux qui écoutent la prédication de lui le crucifié. Sinon, la croix est toute la signification qui est liée à l'œuvre de Golgotha est rendue vaine. Mais là où la parole du Seigneur est prêchée, la parole de la croix, telle que nous l'avons lue ici, pas seulement que nous soyons en train de parler de la croix, beaucoup portent, n'est-ce pas, des croix. Je n'ai rien contre ça, mais cela ne veut encore rien dire. Ici, à Golgotha, ici, il est fait mention de Golgotha. Il fait mention de l'endroit où Dieu, avec l'humanité, a fait une alliance. Le saint sang fut répandu et un peuple a été racheté pour appartenir à Dieu, qui a été appelé par la prédication et vient à la foi en Jésus-Christ. Tous les hommes qui, par une prédication du message de la croix et du crucifié, ne sont pas devenus croyants par ce message-là. Ils seront devenus croyants pour le temps, mais pas pour l'éternité. Pas pour l'éternité. Celui qui veut croire pour l'éternité et veut être sauvé, il faut que la parole de la croix, dans tout son effet divin, avec la réconciliation, avec le pardon, avec le salut et la grâce, avec la vie éternelle, avec toutes les expériences qui sont contenues et avec tout ce qui est dans le crucifié. Il faut qu'ils reçoivent cela par les prédications et devenir une partie de ce que Dieu nous a préparé. Il faut expérimenter ces choses personnellement, pas seulement les écouter. Sinon, un jour, nous serons déçus, malgré que nous ayons écouté la parole. Car nous allons remarquer que Paul, ici, dit qu'aux Grecs, c'est... Il le dit tout de suite ici, et cela... Au verset 23, nous prêchons Christ, crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Maintenant arrive le verset 24, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Christ. Mais puissance de Dieu est prêchée en tant que, donc pour, oui, puissance de Dieu et sagesse, pour juifs et grecs, pour ceux qui croient. De quoi il s'agit ici dans cette parole de Dieu? Il s'agit de ce que la crucifixion n'est pas un mot vain, mais que à Golgotha, dans le crucifié, dans ton Rédempteur et mon Rédempteur, toute la puissance de Dieu pour ton salut, pour ta guérison, pour ta délivrance, tout en Jésus-Christ, le crucifié, nous a été déjà accordé. Car la puissance de Dieu est manifestée et révélée en ceux qui acceptent et croient la parole de la croix et du crucifié. Paul, n'est-ce pas, l'a exprimé ici. Mais puissance de Dieu, c'est écrit ici, noir sur blanc. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Par la sagesse humaine, la parole est rendue vaine, la croix est rendue vaine, tout reste sans effet. Mais là où Dieu nous révèle vraiment la signification de Golgotha, peut nous montrer par la révélation, parce que c'est là que la puissance, la pleine puissance de Dieu sera manifestée en ceux qui l'écoutent. Et nous attendons à cela. Nous attendons à ce que la victoire et la bénédiction qui coule de Golgotha, car la malédiction a été transformée en bénédiction à Golgotha. La mort a été transformée en vie. Les fautes ont été expiées. Et le plein pardon, le plein salut. Notre passé a été effacé. Et l'ordonnance qui nous condamnait. Pourquoi est-ce que ce cantique dit? Celui qui voit Jésus-Christ sur la croix, au même instant, il reçoit le salut. Il a seulement besoin de regarder. Et parfois, il y en a qui sont croyants depuis des années, mais pas encore sauvés. La puissance de Dieu, qui par l'œuvre de la rédemption à Golgotha, se déverse sur le croyant, doit être manifesté de la manière telle que Dieu l'a planifié. Dans l'Église primitive, c'était le cas que la puissance de Dieu pouvait se manifester. Et la même chose, nous pouvons maintenant, par la grâce de Dieu, l'expérimenter. Laissez-moi encore lire du chapitre 2, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs fin de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Maintenant arrive l'explication pour cela au verset 5. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dans un autre verset, Paul aussi l'a dit, alors qu'il était là-bas, il voulait aller à Corinthe, qu'il voulait examiner les gens pour voir dans quel état ils sont. Et il ne voulait pas les examiner par leurs paroles, mais par leur puissance. Et il dit, c'est peut-être raison, dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, au verset 20, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Pas dans ta et dans ma puissance, pas en ce que je peux faire ou bien tu peux faire, produire ou bien je peux produire, mais le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance de Dieu seulement. Il s'agit que la puissance de Dieu, qui depuis Golgotha a produit son effet, par la parole et par l'esprit et par le sang de l'agneau et par le nom du Seigneur, que la puissance de Dieu puisse être manifestée dans ta vie et dans ma vie. Si nous voyons les choses ainsi, une fois, nous pouvons déjà maintenant être heureux. Si c'est nous qui devions produire quelque chose, ou bien pardon, faire quelque chose, alors nous pourrions réfléchir comment le faire et quand est-ce que nous devrions le faire. Mais nous devons nous réjouir parce que ce n'est pas nous qui devons produire ces choses. C'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui veut le faire. C'est Dieu qui veut parler. C'est Dieu qui veut agir. C'est Dieu qui veut faire. C'est Dieu qui veut se manifester, se révéler. Là où la sagesse humaine sur la parole de Dieu et sur Christ est portée, non. Non. Seulement là où Jésus-Christ, le crucifié, et l'évangile et la parole de la croix sont annoncés et que Dieu peut établir son alliance et ainsi que son peuple croyant vient devant sa face pour recevoir la bénédiction promise. N'avons-nous pas dans la parole d'introduction entendu à Abraham les promesses ont été données que dans ta semence, au singulier, dans ta semence, et ça c'est Christ. On l'a lu dans Galates 3. Toutes les nations de la terre seront bénies. Et cela a eu lieu par la croix. La bénédiction est venue. Et cela sur tous ceux qui croient, que ce soit juifs ou alors des nations, ça n'a aucune importance. Ici, il est dit que Christ, elle est deux pour les croyants. Il est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Il est notre rédemption. Il est, ça c'est 1 Corinthiens, verset 24. Il est notre rédemption, il est notre paix. Il est tout en tous. Pour ceux qui croient sa parole et lui font confiance. Aujourd'hui, nous devons recevoir cela dans notre cœur. Le Seigneur bâtit son Église. Son Église. Et nous voulons être une partie de cette bâtie, de cette Église-là qu'il bâtit. Nous voulons être édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. En lui, l'Église bien coordonnée s'élever pour être un temple saint dans le Seigneur et l'adorer en esprit et dans la vérité. Et être fondé sur le fondement des apôtres et édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Cela est déjà accompli en grande partie. L'édifice est en train d'être bâti et Dieu est en train de faire le reste et ensuite de remplir tout par son esprit. L'édifice est déjà fondé, mais que personne reste comme ça à hésiter, mais que nous puissions avoir du courage et dire, Seigneur, tu es mort pour moi à Golgotha. Tu as pris ma place. Tu as porté mes fautes et mes péchés. Tu mourus pour que moi je puisse vivre. Tu es venu du ciel sur terre pour que moi de la terre je puisse aller au ciel. Mais bien aimé, cela me réjouit toujours et m'accorde l'assurance. Quand je vois tous ces hommes dans les différentes religions et que je peux leur apporter la parole de Dieu et que je peux leur prêcher et annoncer Christ comme sauveur. Qui a approuvé une telle chose? Personne en dehors de l'Église du Dieu vivant. Tout le reste était que des, hommes avec des idées, mais ils sont morts. Et leurs adeptes seront là où ils sont eux-mêmes. Je l'ai déjà dit, alors que je prêchais devant une grande foule, j'ai dit aux gens, Dieu va être juste en ce jour. Il va, tous ceux qui ont suivi Mahomet, il va les apporter, il va les amener là-bas, là où Mahomet est. Et j'ai dit à tous les leaders de religion, je les ai tous nommés, et j'ai dit, Dieu est tellement juste. Tous leurs adeptes, ils vont aller là où est leur fondateur. Et à la fin, j'ai dit, réfléchissez vous-même. Et j'ai apporté la chose avec le Seigneur. Et ensuite, j'ai résumé et j'ai dit, là où Jésus-Christ est, ça, je le sais. Et ça, il nous l'a dit auparavant. Mais où les autres sont, ça, personne de ces gens-là ont dit où ils vont. Mais moi, je sais où je vais. Comme et quel en est le cas avec vous. Et vous savez, alors là, ils commencent à réfléchir quand on leur parle comme ça et ils se réveillent. Ils écoutent. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu nous a fait grâce et ne nous a pas comme ça laissé être des pharisiens juste à leurs yeux avec la Bible sous leurs épaules qui se tiennent devant les gens et commencent à leur parler. Non, pas la sagesse humaine. Il s'agit de la croix. La croix ne doit pas être rendue vaine par notre langage. Et la parole de la croix est une puissance de Dieu. Et tous ceux qui ont reçu vraiment le témoignage de Jésus-Christ, le crucifié, et le témoignage dans la foi, c'est un témoignage qu'ils expérimentent cette puissance de Dieu qui depuis Golgotha a été manifestée et est déployée, qui peut s'expérimenter personnellement. Aujourd'hui, nous pouvons, en cet endroit, expérimenter personnellement la puissance de Dieu, car la prédication n'était pas pour demain, elle était pour aujourd'hui, pour cette heure. Et pour que dans cette heure, nous puissions expérimenter Dieu et remercier Dieu et dire, Seigneur, maintenant, je vois tout cela dans ta lumière. Maintenant, la chose m'éclaire. Tu es le crucifié. Je suis crucifié avec toi. Ma condamnation est tombée sur toi pour que j'aie la paix. Et tu es ressuscité pour ma justification, car c'est ainsi que c'est écrit dans Romains 4. Justifié par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 3. Donc si nous avons été justifiés par Dieu, par la foi, alors qu'est-ce que nous voulons encore plus que ça? Racheter, délivrer, purifier, sanctifier. Et c'est au consacré ou au sanctifié que Paul a écrit autrefois, pas seulement aux églises locales, mais à tous les saints et à tous les appelés qui se rassemblent en tout lieu pour invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de ce que cela est écrit ici. Que ce n'est pas seulement écrit le nom du Seigneur ou bien le nom de Jésus, mais entièrement, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a, à la fin, une église qui, par la parole révélée, est conduite, oui, est conduite dans le plein mystère, dans la pleine connaissance de Dieu. Et vous savez, nous savons, beaucoup, depuis des années, ont baptisé au nom de Jésus. Mais ils n'ont pas compris ce que Matthieu 28 vraiment signifie. Il s'agit de tout le nom. Seigneur Jésus-Christ, Père, Fils, Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ. Mieux et plus clair et plus parfait que ça, Dieu ne peut pas le faire et nous le révéler. Car il a déjà fait. Ça, c'est toute la révélation de Jésus-Christ. Et Paul, n'est-ce pas, a reçu cette révélation. Il avait cette révélation. C'est peut-être certain que, n'est-ce pas, par l'Esprit conduit, il a écrit ainsi, que tout en Corinthe, en Jésus-Christ sanctifié, et à l'Église de Dieu qui est en Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés, en Jésus-Christ, saint, vocation, et à tous ceux qui invoquent le nom en tout lieu, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Nous pouvons invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ en tout lieu, de tout notre cœur, l'invoquer. Il s'est révélé à nous, s'est tourné vers nous, s'est révélé à nous. Et à cela aussi, il nous a révélé sa parole par son esprit. Et il nous a conduits dans ses mystères. Aujourd'hui, que nous puissions lui dire merci pour cela. Que nous puissions louer son Saint-Nom. Car il a fait de grandes choses et des choses merveilleuses pour nous. Cela reste ainsi. Dieu est fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Loué soit le nom du Seigneur. Croyez aujourd'hui, s'il vous plaît, que nous appartenons à l'Église du Seigneur, à l'Église de Dieu, la colonne et l'appui de la des vérités divines, porteuse de ses promesses et de sa parole révélée. Que nous ne puissions pas nous tenir sous des pieds qui tremblent, mais sous un fondement de sable, mais un fondement solide, comme Paul le dit aux Corinthiens. Tiens, il n'y a pas un autre fondement. Personne ne peut placer un autre fondement en dehors de celui qui est déjà placé, fondé, posé. Et ça, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Que chacun fasse attention à la manière avec laquelle il bâtit là-dessus. Que aujourd'hui, nous puissions être édifiés sur ce saint fondement, sur votre très sainte foi, juge d'eux, et dans la prière être lié avec Dieu, le rencontrer dans la foi. Car celui qui veut venir à Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le présent et qu'il récompense ceux qui viennent à lui, qui le cherchent, récompense ceux qui le cherchent. Comment est-ce que nous pouvons, comme ça, venir dans le doute, dans la prière avec Dieu? Dieu n'exaucera pas notre prière, il n'écoutera même pas. Non, le Saint-Esprit produit la foi sous l'écoute de la parole de Dieu. Et nous venons dans la foi. Nous ne sommes pas ici seulement pour écouter. Nous sommes ici pour que en nous, la puissance de Dieu puisse produire quelque chose. Et Dieu exauce nos prières, c'est son dans sa volonté. Sa volonté, c'est que nous puissions prier dans la foi. Et il a dit que maintenant, nous allons adorer ensemble et invoquer le Seigneur.